Bonjour.
Vous êtes historien, vous avez consacré votre thèse de doctorat à l'histoire de la police scientifique et technique en Europe. Alors, si on revient aux questions que Jérôme nous posait, les vrais pionniers de la police scientifique, ils sont européens et même suisses?
Oui, ils viennent pas en fait de Miami, de Las Vegas, ni de New York. En fait, ils sont vraiment ancrés à Lausanne, à Paris ou à Lyon. Donc, ils sont vraiment européens. Et ils naissent en fait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, l'Europe a environ 50 ans ou 60 ans d'avance sur la police scientifique par rapport aux États-Unis.
Et parmi les grands noms de ces pionniers, il y en a deux qu'on peut citer. Rodolphe Archibald Reiss, à qui vous aviez consacré un précédent ouvrage, mais également Alphonse Bertillon, c'est vraiment deux grands noms de la police scientifique.
Oui, tout à fait. C'est deux pionniers, en plus, qui se connaissaient, qui s'appréciaient beaucoup. Reiss est un Allemand, mais qui est venu en fait se former à l'université de Lausanne quand il avait 18 ans. Il s'est formé en chimie et il a découvert une passion, la photographie. Et c'est cette passion pour la photographie qui l'a fait dévier vers la photographie judiciaire et qui le fera dévier ensuite vers la photographie criminalistique. C'est-à-dire que, en fait, il a d'abord fait de la photographie aussi médicale et après, il a commencé à s'intéresser aux différents types de traces qu'il trouvait sur une scène de crime et évidemment qu'il photographiait. Mais en fait, c'est un homme extraordinaire, ce fameux Reiss, parce que c'est celui qui a créé le premier institut mondial de criminalistique à l'université de Lausanne et qui existe encore actuellement. Donc il l'a créé en 1909 et on avait fêté en 2009 le centenaire de l'institut et ça avait donné lieu à une belle exposition au musée de l'Élysée où on avait pu présenter les photographies de scènes de crime pour la première fois au public, vu que ces photographies restent souvent dans les archives pendant plus de 100 ans avant d'être accessibles. Et puis le fameux Bertillon, justement, c'est un Français qui lui travaillait à Paris, à la préfecture de police de Paris exactement, et qui a mis au point la fameuse photographie qu'on connaît, signalétique de face et de profil, parce qu'avant lui, on photographiait les criminels sous différents angles, sous différents éclairages, on essayait de retoucher les clichés, on enlevait les verrues, les rides, et en fait, ça enlevait toute utilité d'identification pour ces photographies.
On imagine une photo aujourd'hui placée par Photoshop, hein, effectivement.
Tout à fait.
Alors dans ces livres, on va remonter le temps, et puis par exemple, vous nous expliquez la façon ambiguë dont les bourreaux étaient perçus par la population. Ça c'est...
Oui, dans l'ancien régime, justement, on pratiquait la peine de mort, malheureusement, contrairement à certains pays encore aujourd'hui qui la pratiquent. Mais les bourreaux qui étaient justement chargés d'exécuter les peines étaient perçus de façon ambivalente. Non seulement ils étaient recherchés, parce qu'ils maîtrisaient l'anatomie, ils pouvaient réduire certaines fluxions ou certains problèmes du corps, et en même temps, ils étaient craints de la population, parce qu'ils versaient le sang. Et beaucoup de légendes tournaient autour de ces personnages ambivalents. Des personnes essayaient de guérir en buvant le sang des condamnés à mort. On essayait de vendre la corde des pendus. On pensait qu'on pouvait soigner certains maux, par exemple des dents, en touchant une dent d'un mort qui avait été condamné justement par un bourreau. Donc c'était des personnages extrêmement craints, respectés, mais en même temps dont on se méfiait. Et souvent, la maison des bourreaux était placée à l'extérieur de l'enceinte de la ville. On voulait pas trop les côtoyer, on voulait pas trop les toucher non plus parfois. On voulait pas s'asseoir sur le même banc qu'eux à l'église. Donc ils étaient nécessaires à cette société d'ancien régime, mais ils étaient craints aussi.
Et ceux qui traquent aujourd'hui les traces autour des scènes de crime, en fait, quelque part, ce sont les descendants des chasseurs.
Ah, je suis totalement d'accord avec vous. Puis les chasseurs, on pourrait dire, du Moyen-Âge, en fait. Dès le Moyen-Âge, on a des traités de chasse où on a des chapitres vraiment très détaillés qui nous expliquent comment distinguer un cerf d'une biche rien que par l'analyse de la trace de pattes dans le sol. Et puis aussi à partir des excréments que certaines bêtes laissaient dans le sol. Et ces traités de chasse délivrent à partir du 14e siècle déjà des chapitres très très détaillés sur l'analyse des traces. Et puis ce savoir cynégétique, donc d'analyse des traces de gibier, sera repris même dans certains manuels de police scientifique au 20e siècle, où certaines scènes de crime contiennent des traces de chiens qui accompagnent par exemple le criminel.
Alors ces 65 affaires criminelles, ce sont des chroniques que vous avez publiées dans le quotidien La Côte, des histoires criminelles qui ont marqué l'histoire de la police scientifique. Ça se lit comme un bon polar, un bon polar, mais avec quelques images qui font un peu froid dans le dos, hein.
Oui, elles sont quasiment toutes extraites de la production de ce fameux criminaliste Rodolphe Archibald Reiss. Donc elles ont été produites à Lausanne essentiellement ou dans la Suisse romande parce que c'était son champ d'expérimentation privilégié. Et on a des milliers, voire une dizaine de milliers de plaques de photographies sur verre qui sont l'œuvre de Rodolphe Archibald Reiss et qu'on peut publier maintenant vu que ça fait plus de 100 ans qu'elles ont été réalisées. Et elles sont détenues en partie encore à l'Institut de police scientifique à l'Université de Lausanne.